Bonjour à tous, merci à vous d'être là cet après-midi. Je m'appelle Antoine Bacchini, je suis chercheur en Geek Story au sein de la chaire RISET, qui est un organisme universitaire donc qui unit en fait les compétences de l'université Bordeaux-Montaigne et Bordeaux avec Enedis, notamment en fait pour repenser le rôle des réseaux, notamment électriques, dans la transition énergétique au service de la société et des citoyens. Pour ma part, j'ai récemment achevé mon mémoire de Master 2 en histoire économique qui traite de l'entreprise Lucasfilm en tant que géant de l'entertainment, champion de l'innovation technique et marketing. Aujourd'hui, je vais essayer de vous proposer un petit tour d'horizon de l'histoire du geek et de sa culture en vous faisant revivre ce que j'appelle donc l'odyssée du geek. Alors, on va commencer par parler un petit peu des multiples origines du mot. Tout d'abord, il est assez difficile en France de parler du geek et de sa culture sans se référer à David Perron, qui est donc maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université d'Aix-Marseille, et surtout spécialiste donc pour ce qui nous intéresse de la question geek. Il est d'ailleurs l'auteur d'un ouvrage vraiment passionnant que je ne peux que vous recommander, qui s'appelle Culture Geek et qui s'intéresse, pour faire simple en gros, à l'émergence et à l'évolution de cette culture, ainsi qu'aux grandes dynamiques qui la traversent et qui l'ont traversée. Selon lui, l'étymologie du mot geek remonte en fait au Moyen Âge et le terme désigne alors un individu qui en fait se laisse facilement berner et considéré comme un idiot par le reste de la société. On retrouve d'ailleurs le terme geek, signifiant idiot, dans d'anciennes formes d'allemand. Donc on voit bien finalement que dès l'origine, le mot revêt une connotation péjorative qui petit à petit se répand en Europe. On commence à retrouver des traces de ce terme dans la littérature à partir de l'époque moderne, notamment, puisque aux alentours de l'an 1515, le mot fait son apparition dans un vers d'un poème du moine écossais Alexandre Barclay, que vous pouvez ici voir à votre gauche. Donc c'est un poème qui est publié dans son recueil qui s'appelle Certain Églogue, et il est écrit donc « Il est un idiot, un sot, un geek ». Donc on voit bien que le mot « geek » est ici assimilé à quelque chose de très péjoratif en fait. Près d'un siècle plus tard, on retrouve le mot en 1601 chez Shakespeare dans la pièce La Nuit des Rois, puisque dans la première scène du cinquième acte de la pièce, un personnage dénommé Malvolio déclame, alors je vais vous faire une partie en anglais pour que vous saisissiez l'occurrence du mot geek. Why have you suffered me to be imprisoned, kept in a dark house, visited by the priest? And made the most notorious geek angle. Ce qui signifie donc à peu près pourquoi avez-vous permis que je fusse emprisonné, enfermé dans une chambre noire, visité par un prêtre et que je devinsse le plastron le plus ridicule que jamais mystification ait joué. Et donc en fait le mot plastron est ici une traduction française ancienne du terme geek et qui se réfère donc pour Shakespeare à un individu faisant l'objet de plaisanteries et de railleries. Ensuite, le terme va en fait se transmettre aux États-Unis où il va en venir à qualifier un artiste de cirque, en fait, si peu talentueux qu'il en vient pour seule performance à arracher, en fait, avec sa bouche, la tête d'animaux vivants, souvent des volatiles ou des serpents, comme vous pouvez le voir à droite, afin d'amuser les audiences. Et donc, il devient très vite là-bas un synonyme du mot idiot, et il désigne une personne alors dénuée de talent et jugée indésirable en fait par le reste de la société. À partir donc début du XXe siècle, à partir de 1930, on va commencer à voir apparaître les prémices en fait de ce qui va constituer les bases de ce que l'on appellera ensuite la culture geek. Puisque la littérature pulp et les comics, dont vous pouvez en voir un certain nombre d'exemples visuels ici, commencent à se populariser auprès d'un certain public. Et on voit l'apparition de héros, à l'instar de Batman ou plus tard ensuite dans les 60s de Spider-Man, qui sont en fait encore très populaires aujourd'hui et qui sont même un petit peu, ben, enfin même carrément, des piliers de la culture geek. Et c'est là aussi qu'émerge la popularité, en tout cas que grandit la popularité d'univers tels que la science-fiction et la fantasy, qui sont évidemment ensuite devenus des univers geeks, entre guillemets, par excellence. Au même moment, donc dans les années 50, le mot geek se popularise petit à petit aux États-Unis et il se réfère alors à des individus qui sont jugés socialement inaptes, caractérisés par leur fascination pour les sujets intellectuels. Et cette définition va donc s'imposer et longtemps rester. On en voit une occurrence dans une lettre que Jacques Kerouac écrit en 57 à son ami Allen Ginsberg, pardon, dans lequel il écrit Brooklyn College wanted me to lecture to eager students and big geek questions to answer. Et donc on voit bien en fait qu'ici, il associe le terme geek aux étudiants les plus studieux. Entre la fin des 50s et la fin des 60s, on va constater un regain d'intérêt fort donc pour les pulps et surtout les comics dont je vous parlais à l'instant, notamment grâce aux créations du très célèbre Stan Lee et particulièrement de héros donc tels que Spider-Man, puisque Peter Parker, jeune homme peu populaire et rejeté par ses semblables, mais en vérité doté de super pouvoirs qu'il doit garder secret, semble résonner en fait chez beaucoup de jeunes, enfin chez une frange de la jeunesse qui se sent rejetée par les gens de leur âge en fait. Et c'est un petit peu une mise en abîme donc de leur situation, mais aussi un fantasme pour eux. Ensuite, dans les années 60, un événement majeur se produit puisque la jeunesse américaine en fait découvre l'œuvre de Tolkien et notamment sa trilogie désormais plus que culte, Le Seigneur des Anneaux, qui avait été publié donc en 53 en Grande-Bretagne, mais qui a attendu 66, en tout cas les Américains ont dû attendre 66 pour que ça arrive aux États-Unis. Et donc pour beaucoup, en fait, Tolkien est considéré un peu comme le geek originel, puisqu'il était largement méprisé par bon nombre de ses collègues d'Oxford, où il enseigner, qui en fait se moquait parfois de lui et de, je cite, ses histoires de hobbits. Sauf que voilà, très vite, Le Seigneur des Anneaux en fait s'impose comme l'œuvre fondatrice du mouvement geek, cimente d'ailleurs le caractère central des univers médiévaux fantastiques en son sein jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que la complexité de l'univers développé par Tolkien est très inédite et séduit beaucoup, puisqu'il propose un univers truffé de détails, qu'ils soient géographiques, linguistiques, ethnologiques, ce qui confère en fait une grande densité ainsi qu'une profondeur alors unique à son monde et à ses occupants. C'est un univers qui, pour citer David Perron dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, déborde de l'œuvre. C'est une exposition d'ailleurs très intéressante, je trouve, et cela séduit en fait le geek qui commence, enfin qui se plaît à créer ou à explorer en fait des mondes et des univers, et qui se montre désireux de prolonger l'expérience au-delà du média originel, que ce soit par le biais de fanfiction, de scénarios, petit à petit de jeux de rôle, etc. en fait. Ensuite, dans les deux décennies suivantes, donc les années 70 et 80, émerge aux États-Unis la représentation du geek telle qu'elle est largement illustrée dans la culture populaire par la suite. C'est-à-dire qu'on le présente souvent comme un jeune garçon déjà, souvent un collégien, un lycéen ou un étudiant, qui est jugé en fait si étrange par les autres qu'il en devient impopulaire, que ce soit auprès de ses camarades ou des filles, qui le rejettent et vont parfois jusqu'à le harceler. Et donc on l'envisage volontiers comme un individu accablé d'un physique peu gracieux, comme on peut le voir dans les représentations visuelles qu'on a ici de l'époque, qui sont issues donc de séries. Il est souvent affublé donc de larges lunettes. On le représente comme renfermé sur ses passions, qui vont donc des comics aux jeux de rôle. C'est ainsi en fait que le mot geek devient presque une insulte, même carrément, et aussi l'antonyme du mot cool, puisque le geek est considéré comme différent en fait, mais dans le mauvais sens du terme. Il est donc rejeté par les autres en fait en raison de sa personnalité, de ses centres d'intérêt. On l'oppose très souvent au jock, qui est lui l'étudiant sportif et populaire. Et ce cliché donc que l'on a beaucoup vu dans les années 90 et 2000 a commencé à être largement exploité dans le film Revenge of the Nerd. Vous pouvez voir l'affiche au milieu de l'écran, qui est donc sorti en 84 et qui va vraiment cimenter en fait dans l'imaginaire collectif l'image du geek ou du nerd comme un intello mal à l'aise socialement et passionné d'informatique. Alors, autre moment majeur de cette odyssée du geek, c'est l'année 74, puisqu'elle voit l'apparition d'un des nouveaux piliers de cette culture, qui est donc le fameux jeu de rôle Donjons et Dragons. Et en fait, cette nouvelle forme de divertissement, donc, qui est le jeu de rôle, va s'imposer au cœur de la culture geek en permettant une évasion et une immersion inédite pour le joueur dans un univers d'heroic fantasy. Ce qui confère à beaucoup le sentiment de véritablement vivre en fait des aventures dans ces mondes fantastiques qu'ils aiment tant, en se glissant dans la peau d'un personnage héroïque, ce qui est bien sûr bien loin de la véritable condition d'un adolescent considéré donc comme populaire. Donc Donjons et Dragons s'impose dans la seconde moitié des 70s et le début des 80s comme le jeu geek par excellence. On retrouve d'ailleurs dans la première saison de la série Stranger Things une représentation en fait contemporaine de cet engouement, qui montre bien donc l'importance cruciale que ce jeu a eue à cette époque. Donjons et Dragons va participer aussi à forger les premières communautés geeks, puisque c'est une activité qui évidemment se pratique à plusieurs, ce qui montre bien que le geek n'est pas un solitaire, mais en tout cas pas forcément, mais un individu qui au contraire cherche à s'entourer de ses semblables avec des gros guillemets pour pratiquer certaines de ses passions. Et donc on commence là avec tous ces éléments en fait à assister à l'émergence d'une véritable sous-culture. Un groupe à part avec ses activités et ses références. En parallèle, donc, à la fin des années 80, apparaissent les premiers jeux vidéo d'arcade qui connaissent eux aussi un succès grandissant. Donc, on commence à avoir une culture qui est quand même assez étoffée, en tout cas, qui repose sur un certain nombre de piliers. Alors, ce qui est amusant, c'est que cette culture, elle est dans les années 80, notamment, parfois perçue comme menaçante, puisque des controverses vont apparaître et se cristallisent notamment autour de Donjons et Dragons, que certains groupements religieux vont accuser de promouvoir le satanisme et la sorcellerie. Ces critiques sont aussi adressées aux comics, que certains vont accuser en fait de pervertir la jeunesse, puisqu'ils sont envisagés par une certaine frange de la société comme des centres d'intérêt pour marginaux, peu convenables pour la jeunesse américaine, voire même responsables de la délinquance juvénile, ce qui peut paraître complètement délirant à l'heure actuelle. Alors, ensuite, fin des années 80 et au début des années 90, va largement émerger en fait la dimension informatique de la culture geek à l'âge donc de la miniaturisation, des premiers ordinateurs personnels et des premières consoles, qu'elles soient portables, à l'instar des Game & Watch, qui sont donc les ancêtres des consoles portables en fait, ou donc les consoles de salon. Le geek devient à ce moment-là en fait largement perçu donc comme un féru d'ordinateurs et de jeux vidéo devant lesquels il passerait donc le plus clair de son temps. C'est aussi à cette époque, avec les débuts d'Internet et des forums en ligne, que ce sentiment d'appartenance à une culture geek croît en fait. Puisque être un geek, c'est désormais pour beaucoup faire partie donc d'une sous-culture à part entière, encore plus développée pardon que pendant la décennie précédente, avec donc ses références communes et ses codes. Un embryon d'identification à cette culture donc paraît. Et certains commencent même à la revendiquer, puisque ces individus animés par des fascinations en fait et des passions communes se retrouvent notamment en ligne pour discuter de leurs centres d'intérêt ou les pratiquer ensemble. Et c'est notamment à ce moment-là que commencent à se développer les MMORG, donc les Massively Multiplayer Online Role-Playing Games, tels que World of Warcraft, qui vont encore renforcer cette dynamique de partage communautaire en ligne. En parallèle, dans les années 90, on se rend compte aussi que les représentations en fait du geek dans la culture populaire se font plus nuancées qu'auparavant. On peut en voir un exemple dans l'excellente série que je vous recommande, Freaks and Geeks, de Paul Feig et Judd Apatow, qui est donc va suivre au début des années 80 un petit groupe de lycéens geeks et un groupe de lycéens plus vieux freaks, donc plus rebelles. Et on va voir donc les interactions entre ces différents personnages et c'est vraiment très drôle, très intéressant. Je trouve que c'est une série qui joue habilement en fait avec les codes de représentation du geek pour en fournir un portrait qui est à la fois riche, subtil et plutôt loin de la caricature en fait, je trouve. Donc à ce moment-là, là on est dans les années 90, donc ça fait déjà un certain nombre de décennies, entre guillemets, d'histoire geek. On se rend compte qu'entre les années 60 et 90, un certain nombre en fait, de termes sont apparus pour désigner différentes facettes de ce qu'on peut commencer à appeler la tribu geek. Donc l'une des plus populaires alternatives à ce mot, c'est le terme nerd. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que geek et nerd sont en vérité largement synonymes, mais des nuances existent quand même. Alors, le mot nerd, il vient en fait d'un livre de Dr. Seuss, donc il y a un auteur très connu américain de livres pour enfants que vous connaissez sûrement. L'un de ses ouvrages, paru en 1950, intitulé If I Ran the Zoo, nous présente une créature donc, qui s'appelle un nerd. Dans les années 90, donc, ce terme se référait largement à des individus souvent envisagés davantage donc, comme des intellectuels, des asociaux passionnés par les sciences et la technologie, et possédant d'ailleurs des connaissances techniques sur ces sujets. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup lui préfèrent le terme technophile, qui est bien moins porteur de connotations péjoratives. Et sa connotation négative, donc, vient probablement en fait d'un article publié dans Newsweek en 51. Donc un an après cette première occurrence, un article donc qui associe le terme au mot ringard. En complément, en nuance en fait, le geek traditionnel lui serait davantage défini par son amour pour les univers imaginaires et les jeux vidéo. On l'envisage volontiers comme un individu collectionnant donc des objets liés à ces univers qu'il affectionne tant. On le perçoit aussi comme davantage ouvert, au moins à ses semblables qu'il retrouve dans le cadre de manifestations spécialisées ou sur des forums en ligne, par exemple. D'autres termes aussi firent leur apparition, tous deux profondément pratifs. D'un côté, on a le mot dork, qui se réfère à un individu perçu comme profondément mal à l'aise socialement, stupide et à l'opposé total du cool. Et on a aussi le terme no life, qui pour sa part, lui, désigne entre guillemets un geek extrême qui passerait tout son temps devant ses écrans à jouer aux jeux vidéo. Ce qui est sûr, c'est que cette dynamique et cette perception du geek aujourd'hui a bien évolué, notamment depuis le début des années 2000, puisque désormais on peut considérer en fait que cette culture geek nourrit indiscutablement de plus en plus la culture mainstream. C'est un processus qui avait commencé en fait dès la fin des 70s de manière visible avec l'immense succès de Star Wars qui s'était imposé en fait à l'époque comme le plus grand succès commercial de l'histoire du cinéma, hors ajustement à l'inflation, parce que si on tient compte de l'inflation, c'est autant n'importe le vent qui détenait toujours cette palme. Mais bref, Star Wars devient instantanément une œuvre majeure de la culture geek, mais connaît au-delà en fait également un vaste succès auprès du mainstream, si bien que cette licence est devenu une des franchises cinématographiques les plus rentables de tous les temps. Et donc, ce qui fait à l'époque en fait le grand succès de ce film, c'est que Star Wars constitue en fait une forme de synthèse des phénomènes geeks de son époque, puisque George Lucas puise son inspiration aussi bien dans les pulps que dans les séries de son enfance à la Flash Gordon ou dans l'œuvre de Tolkien, bien évidemment. Et tout ça, en fait, est mélangé et habillé d'effets visuels qui sont à l'époque complètement révolutionnaires et qui constituent une véritable prouesse technique, ce qui ne peut évidemment que séduire le geek qui commence alors à se prendre de passion pour les nouvelles technologies. En fait, avec sa première trilogie, Lucas parvient à mettre en place un monde immersif et ludique qui dégage une impression de profondeur et il réussit ainsi, en fait, presque à égaler l'exploit accompli par Tolkien plus de 20 ans tôt. Donc c'est dans les années, voilà, comme je le disais, 2000 et 2010 que vraiment cette culture commence à se massifier, puisqu'elles sont celles en fait du succès massif d'adaptation au cinéma d'œuvres étendards de la culture geek, à l'instar donc de la trilogie du Seigneur des Anneaux ou des comics Marvel. D'ailleurs, c'est la licence la plus rentable en 2020 de l'histoire du cinéma. Et donc cela a commencé avec le lancement bien sûr du Marvel Cinematic Universe. Côté littérature, l'ouvrage Ready Player One d'Ernest Cline s'impose, lui, en 2011 au sommet de la liste des best-sellers du New York Times, avant d'être adapté au cinéma en 2018, d'ailleurs, par Steven Spielberg. Aujourd'hui, en 2020, force en fait est de constater que la culture geek est partout. On est chez un libraire à la FNAC, dans un magasin de jouets ou devant un cinéma. Il est, je trouve, très difficile d'y échapper. Je pense que la culture geek n'est plus aujourd'hui une sous-culture. Enfin, par certains aspects, elle le demeure, mais il n'empêche qu'elle est bel et bien au cœur, en fait, de la nouvelle culture populaire, mainstream et globale. On constate d'ailleurs pendant cette période la multiplication de séries mettant à l'honneur le geek, c'est-à-dire en faisant son principal protagoniste et mettant aussi à l'honneur toute cette culture. Donc on peut citer évidemment The Big Bang Theory, qui est la première sitcom américaine mettant les geeks au premier plan. C'est une buddy sitcom dans laquelle tous les membres d'un groupe d'amis central donc se retrouvent et sont issus de cette tribu geek. Et on peut citer aussi Community ou encore The It Crowd. Donc on voit dans ces séries une représentation qui en effet va être assez cliché, souvent des fois un petit peu moqueuse, mais aussi en fait pleine de tendresse, puisque je trouve qu'on s'amuse du geek et de son décalage, tout en faisant un personnage en fait attachant et sympathique. Après bon, on aime ou on n'aime pas, mais la dynamique est là. Un autre facteur d'importance de l'intégration de plus en plus vaste de la culture geek dans le mainstream, c'est l'émergence dès les années 90 de la figure, ce que j'appelle le successful geek. Donc c'est des individus qui, à l'instar de Bill Gates, qui devient en 95 l'homme le plus riche du monde, ou encore de Steve Jobs et Mark Zuckerberg, deviennent en fait milliardaires grâce à leur geekiness, en fait, à leur amour pour cette culture geek et à leur côté geek aussi. Ceux dont on se moquait en fait auparavant ont utilisé les objets de ces moqueries, à l'instar de leur attrait pour la technologie, pour devenir des individus qui sont désormais couronnés de succès et qui sont de véritables symboles de réussite. Enfin, l'explosion d'Internet et de la culture informatique a aussi largement participé à cette massification, puisque à l'heure actuelle, en Occident notamment, la majorité de la population possède un ordinateur, un smartphone, et les consommateurs de jeux vidéo sont de plus en plus nombreux. Ce qui fait que finalement, des comportements jugés autrefois comme anormaux, à l'instar du fait de passer des heures devant un écran, sont aujourd'hui devenus la norme. C'est évident que le succès d'Internet et des nouvelles technologies auprès du grand public permet aussi donc aux geeks d'être perçus différemment, puisqu'ils sont parfois perçus donc comme des pionniers avec une longueur d'avance sur la maîtrise de nouvelles technologies, ce qui fait que leur compétence et leur expertise est désormais jugée utile et elle est même convoitée en fait. Une preuve supplémentaire de cette massification de la culture geek, c'est l'existence depuis 2006 en fait d'un Geek Pride Day qui est célébré chaque année le 25 mai. C'est une journée qui est consacrée à la célébration des cultures geeks au sens large du terme. Une initiative qui a vu le jour grâce aux efforts du blogueur espagnol Germán Martínez, puisqu'il a réuni en fait à Madrid le 25 mai 2006 300 individus qui ont reconstitué un imposant Pac-Man humain que l'on pouvait voir donc du ciel, qui était pour eux en fait une occasion de célébrer cette culture par ce geste symbolique. Et un manifeste fut même mis au point qui rassemble en fait un florilège des obligations et droits fondamentaux du parfait geek, à l'instar du droit de ne pas aimer le foot ou les sports de manière générale, ou encore de l'obligation de visionner tout film geek dès le jour de sa sortie. Alors évidemment, cette date du 25 mai, elle n'a pas été choisie au hasard, puisqu'elle constitue au sein de la culture geek une triple référence, puisque c'est d'abord le 25 mai 1977 que sortit dans les salles obscures donc le premier volet de la saga Star Wars, qui est le point donc séminal de la mainstreamification de cette culture. Mais c'est aussi la date du jour de la serviette, qui est un hommage donc à l'écrivain britannique Douglas Adams, qui est l'auteur du classique de science-fiction Le Guide du Voyageur Galactique. C'est aussi donc une troisième référence, puisque le glorieux 25 mai est dans l'univers des Annales du Disque Monde, qui est une saga donc fantasy littéraire culte écrite par Terry Pratchett, une journée de commémoration du sauvetage de la cité d'Ankh-Morpork, une cité donc de cet univers. Ce concept donc de Geek Pride Day, il s'est rapidement répandu en Occident, puisqu'il est depuis 2008 officiellement célébré aux États-Unis. D'ailleurs, dès l'année suivante, le célèbre Science Channel s'en emparait et prenait une part active dans les festivités en diffusant une programmation spécialement adaptée à l'événement. Et depuis le début des années 2010, il est largement célébré en fait dans l'ensemble de l'Europe et au-delà. Aujourd'hui, 60% des 83 millions de millennials se considèrent geeks, ce qui est absolument colossal. Évidemment, une preuve absolue de la massification de cette culture. Cependant, on voit une autre dynamique se former, puisque une frange en fait de ceux qui se définissent comme de véritables geeks ou des geeks hardcore entre guillemets rejettent cette utilisation globalisée du terme geek, qui est vide de sens selon eux. Puisque certains estiment en fait que les médias et une vaste part de la société utilisent à mauvais escient ce terme et ont donc le sentiment que l'on cherche finalement à récupérer, à s'approprier et même à vulgariser leur culture devenue aujourd'hui cool. Pour eux, être geek, en fait, c'est une succession d'éléments et il ne suffit pas d'aimer Star Wars ou de jouer à quelques jeux vidéo pour en être un. C'est assez amusant parce que certains membres de cette culture en fait se font ainsi parfois excluants, ce qui est un ironique retournement de situation, puisque ces individus perpétuent en fait à l'inverse un petit peu cette même exclusion dont ils étaient auparavant les victimes. Mais en tout cas, ce qu'on voit avec tout ça, c'est que le statut geek en fait est devenu quelque chose que certains vont revendiquer avec fierté ou vont convoiter. Cependant, que ceux donc, qui se considèrent comme de véritables geeks entre guillemets se rassure, puisqu'il existe encore des moyens, entre guillemets, de se différencier par leur niveau d'implication dans ces univers qui les passionnent par rapport à ceux donc, qui vont donc se contenter de jouer à un jeu vidéo ou d'aller voir une série de films. Il existe d'ailleurs encore un certain nombre de pans de cette culture qui vont complètement échapper au mainstream, à l'instar de la collection de figurines ou de miniatures ou encore les jeux de rôle. Pour conclure, je voulais parler un petit peu en fait du geek donc dans le monde du travail, puisque c'est une conséquence de cette massification. Et à l'heure actuelle, en fait, le geek est plus attractif que jamais dans le monde du travail, parce qu'il est donc largement perçu comme étant avant tout un passionné qui s'intéresse de manière approfondie à un ou plusieurs domaines, notamment évidemment les sciences, les nouvelles technologies, l'informatique, tant et si bien en fait qu'il est devenu un expert en cette ou en ces matières. Et donc, du fait de cette expertise, il est aujourd'hui envisagé comme un véritable atout pour les entreprises convoitées pour ses connaissances à l'ère du numérique, puisque le numérique est un secteur qui est, par exemple, en France, en grande croissance, puisqu'il a progressé, par exemple, en 2008 de 4,1%. Ce qui fait que maintenant, le profil du geek, entre guillemets, est activement chassé par les DRH à l'heure donc de la multiplication des métiers du digital. Par exemple, les ingénieurs développeurs, les scientifiques data, etc. Et donc, en fait, les entreprises cherchent ainsi désormais à recruter le geek pour ses capacités spécialisées. Ils forment donc un atout de compétitivité, en fait, face à leurs concurrents. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je vous écoute.
Est-ce que la culture manga est considérée comme étant dans la culture geek? Alors oui, complètement, puisque d'ailleurs, c'est un peu une sous-dimension de cette culture. Et il y a un mot pour ça d'ailleurs, c'est otaku, et ça se réfère en fait à un amateur de manga, puisque le mot désigne en fait en japonais un individu qui s'adonne de manière obsessive à un loisir, et ici donc en l'occurrence, ce loisir-là, c'est la passion pour les mangas.
Moi j'avais une question parce que Jordan Provost, donc chargé de développement de la chaire R7, on se connaît bien avec Antoine. J'avais une petite question finalement sur ton avis un peu personnel, justement à l'aune de toutes tes recherches, sur la notion de massification et de commercialisation finalement de l'objet geek en général à travers tous ces versants. Justement, quel est ton regard là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas finalement une forme de dévoiement ou alors de développement, de complexification? Juste avoir ton regard là, sur ce sujet, peut-être plus personnel, moins que scientifique par rapport à tes recherches. Finalement, voilà, c'était un peu ma question assez générale, quoi.
Ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qu'on veut nous vendre, c'est sûr. Parce que comme c'est devenu cool, bah évidemment, il y a pas mal de marques ou d'entreprises qui sont pas du tout de base associées à cette culture, qui tentent, entre guillemets, donc jouer sur la carte geek pour vendre. D'ailleurs, il y a quelques années, je sais plus quand, ça avait fait un petit peu de bruit. Topshop, qui est une grande enseigne anglaise de vente de prêt-à-porter, avait sorti toute une collection avec écrit geek, tout ça, sur plein de t-shirts. Avait sorti tout un tas de photos avec des individus qui arboraient un style geek, mais justement très très stylisé, too much. Et ça, d'ailleurs, ça avait pas trop plu à l'époque. Mais donc oui, c'est sûr que ça devient un argument de vente. Et donc, par moment, c'est complètement dévoyé.
Au club okay, Arthur Dent l'année dernière avec Jordan, justement dans le fil là, puisque club Arthur Dent l'a mis sur YouTube. C'est intéressant pour ceux qui le souhaitent de voir l'évolution de tes travaux et les réflexions au sein de la chaire. On l'avait intitulé l'année dernière, une civilisation en réseau est-elle encore désirable, et on voit bien la progression quand même quand on t'écoute aujourd'hui, à la fois de tes travaux et de ceux de la chaire plus globalement. Donc je vais partager ce lien.
Ok, super. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, on avait très centré sur tout ce qui était imaginaire électrique, donc de l'Antiquité jusqu'à maintenant, en fait, dans la culture populaire. Donc, en effet, si ça vous intéresse, la matière un petit peu là-dessus.
Moi, si je devais faire un commentaire, je dirais que j'étais très intéressé par justement l'origine du mot geek, tout le côté, voilà, l'étymologie, etc. Je trouve ça assez intéressant, parce que c'est pas forcément ce dont on entend parler le plus souvent.
Oui, c'est vrai, c'est très peu connu, c'est pour ça que je voulais commencer par bien développer cet aspect-là, parce que je pense que c'est intéressant, ça met en lumière de manière intéressante ce qui s'est passé ensuite, en fait.
Les subtilités aussi, nerd, dork, geek, etc., où tout le monde veut s'approprier tel ou tel, ou le considérer comme une insulte, c'est vrai que les subtilités sont là.
Oui.
En tout cas, encore une fois, merci beaucoup. C'était vraiment sympa comme sujet. Puis bon, je pense que tout le monde s'y est retrouvé quand même d'une façon ou d'une autre. À très bientôt en tout cas.
Merci à vous pour votre écoute.